17h12 pour ce qui est de l'Europe, mais bien sûr, selon l'endroit où vous vous situez, il y a des petits changements. On a M. Reichmann au bout du fil. Lancement qu'il a fait, je me demande exactement quand est-ce qu'il l'a fait, d'une télévision sur Internet. Monsieur Reichmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez décidé là, de vous lancer dans la télévision, là.
Oui, effectivement, j'ai créé une télévision sur Internet, non sans difficulté technique d'ailleurs, parce que ça n'est pas toujours très simple à faire, mais l'objet de cette télévision, c'est de vaincre la désinformation générale qui règne en France en ce moment, car pour avoir accès aux grands médias télévisés, il faut, comme on dit, montrer patte blanche, c'est-à-dire faire allégeance au système. Si vous critiquez le système ou si vous battez pour essayer de le changer, là, vous pouvez être sûr qu'on ne vous écoutera pas. Donc, nous avons décidé de faire une télévision qui s'appelle Reichmann TV et qu'on peut très facilement atteindre donc sur Internet. Alors, le but, c'est de mettre en ligne en permanence 3 ou 4 émissions qui seront renouvelées chaque semaine. Et je pense que nous allons, dans un temps ultérieur et assez proche, également pouvoir envoyer les DVD aux personnes qui le souhaitent, moyennant une participation aux frais, de manière à assurer une grande liberté de l'information.
Exactement. Le projet a éclos à quel moment? Enfin, qui est l'instigateur du projet, M. Reichmann?
C'est ma modeste personne.
C'est pas si modeste que ça.
Je suis l'instigateur. j'en avais l'idée depuis pas mal de temps.
Okay.
Car je suis persuadé, comme vous d'ailleurs, qu'Internet est vraiment le média de l'avenir.
Le média de l'avenir, oui.
Ah oui, ça c'est absolument certain, et que Internet peut abriter aussi bien des écrits que des images, de la radio, de la télévision, des photos, tout ce qu'on voudra. Et en outre, Internet a un pouvoir fabuleux qui bouscule l'ensemble du système médiatique mondial. Je vous parlais dans un instant de ce qui est arrivé à Monsieur Alain Duhamel, vous l'avez peut-être vu.
Oui.
Et donc l'idée de cette télévision, c'était précisément de donner à tous ceux qui ont une idée différente de la politique l'occasion d'abord de s'exprimer et puis pour les autres de s'informer. Donc la première émission a consisté dans un débat entre Gérard Pince, Jean-Christophe Mounique et moi-même, que vous connaissez bien les uns et les autres.
Mais oui.
Bon, nous allons pour la semaine prochaine, je pense, mettre en ligne une émission sur la fin du monopole de la sécurité sociale. Et puis nous avons beaucoup de projets également pour les prochaines semaines. Donc nous avons, comme on dit, du pain sur la planche. Alors pour en revenir à Internet, il y a eu hier un événement assez intéressant quand même.
Ah.
Il y a en France un éditorialiste qui s'appelle Alain Duhamel. Alors, il se produit sur France 2, c'est la chaîne de télévision d'État, sur RTL où il est éditorialiste le matin, et il écrit des articles dans toute une série de journaux de province. Donc c'est quelqu'un qui est effectivement au cœur du système médiatique et qui naturellement est à la fois quelqu'un qui est un défenseur des choses du système établi, et puis en même temps quelqu'un d'extrêmement conventionnel. D'ailleurs, sa longue carrière ne s'explique pas autrement. Vous ne pouvez pas, si vous êtes dérangeant, faire une longue carrière dans ce genre de médias. Monsieur Duhamel est également professeur à Sciences Po, où il l'a été, et en tout cas il a, au mois de novembre dernier, animé une réunion contradictoire, je crois, enfin en tout cas pas très contradictoire, avec une personne qui s'appelle Marielle de Sarnez et qui est l'actuelle directrice de la campagne de François Bayrou. Et donc Bayrou, lui veut qu'on l'appelle Bayrou,
okay.
À la façon béarnaise.
Monsieur Reichmann, on nous dit aussi qu'il travaille aux Libérations, c'est bien ça?
À Libération, oui, il écrit, exactement. Il écrit aussi des articles dans le journal Libération, mais de manière moins régulière.
D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu plus tard, au courant de notre conversation, de nouvelles dans le Libération qui a retenu mon attention. Alors, je vous laisse poursuivre.
D'accord. Donc, cette réunion, qui était un débat avec des étudiants de Sciences Po, s'est déroulée d'une manière, je dirais, à la fois publique et privée. Enfin, ça n'était pas une réunion publique, mais enfin, elle était ouverte à un certain public. Et il y a quelqu'un qui l'a filmé avec une caméra portable, sans doute, ou un téléphone portable caméra. Et depuis quelques jours, cette réunion circulait sur le web, et notamment le passage où M. Duhamel disait qu'il avait la sympathie pour François Bayrou et que d'ailleurs, il voterait pour lui. Or, il devait le soir même hier animer un débat sur France 2 avec précisément M. Bayrou.
Ah.
Alors, France 2 l'a suspendu pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres. Et en même temps, c'était assez amusant parce que l'un des dirigeants de France 2 est son propre frère. Il s'appelle Patrice Duhamel.
Ah, tiens donc.
Donc, le monde est petit, n'est-ce
pas? Coïncidence, M. Reichmann.
Voilà, coïncidence. RTL a pris la même décision. Alors, ils l'ont d'abord annoncé comme une décision, puis ensuite, Duhamel a dû exiger que cette éviction se fasse avec son accord. Donc, ils ont un petit peu rectifié le communiqué, je crois. Et il est un peu dans la situation, vous savez, du type qui est sur le rebord d'une porte. On lui balance un coup de pied aux fesses pour le virer. Et il dit, merci, c'est moi qui vous l'ai demandé.
c'est bon.
Alors donc, voilà un type, enfin, l'événement en soi n'a qu'une importance relative. Mais ce qui est très important, c'est qu'une fois de plus, c'est Internet qui a eu raison de cet éditorialiste. C'est-à-dire que le système, l'homme qui vraiment est un des chantres du système, se fait virer par la puissance d'Internet. Et ça, c'est une grande nouvelle pour la liberté, pour la démocratie.
Effectivement, et justement, on s'aperçoit aussi que la désinformation dans les grands médias, M. Reichmann, c'est étrange.
Elle est systématique, vous savez. Vous ne pouvez pas faire un pas sans que des gens vous le disent. Et le succès actuel, relatif encore, mais succès quand même, de M. Bayrou, vient du fait qu'il renvoie dos à dos les deux favoris de la campagne, c'est-à-dire Mme Royal et M. Sarkozy, et que c'est en gros l'opinion, et tous les sondages le prouvent, de plus de 70% des Français. Alors, ça ne veut pas dire que M. Bayrou recueille les avis favorables de 70% des Français, mais ça veut dire qu'il a une marge de manœuvre et de progression considérable, car il est vraiment dans le cœur de cible de l'opinion française. Et c'est ce qui explique qu'actuellement il soit relativement bien placé. On dit qu'il pourrait être ce qu'on appelle le troisième homme. Les sondages le mettent à 14%, alors que Mme Royal est à 26% et M. Sarkozy à 33%. Enfin, ces sondages sont quand même un peu illusoires, dans la mesure où l'expérience prouve que dans le courant du mois de mars, ceux qui sont le plus haut dans les sondages vont baisser. C'est une règle générale dans l'élection présidentielle. Et il y a un autre phénomène très intéressant. J'ai mis l'information en ligne sur mon site www.claudereichmann.com. Monsieur Jospin, c'est une information sûre que j'ai recueillie, dit que Madame Royal va être battue à plate couture, et il recommande à ses amis de voter dès le premier tour pour Bayrou, de façon à ce que Bayrou puisse au deuxième tour battre Sarkozy, car Madame Royal, d'après Monsieur Jospin, n'en a plus les moyens aujourd'hui, et il semble bien en effet qu'elle soit dans une mauvaise situation, car il misait beaucoup. Son entourage misait beaucoup sur le discours qu'elle a prononcé dimanche dernier, et il se trouve que ce discours
était
plein de promesses de dépenses, sans aucune indication de recettes ni d'économie, n'a pas eu sur l'opinion un bon impact, et qu'actuellement, j'ai l'impression que la campagne de Madame Royal est en grande difficulté. Et on va probablement assister à des choses très intéressantes dans les prochaines semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le refus d'une grande majorité des Français, plus des deux tiers, de se contenter de l'affrontement entre Royal et Sarkozy est un élément fondamental de cette campagne.
Monsieur Reichmann, j'en ai parlé avec votre copain, est-ce que je peux dire ça, votre ami Gérard Pince.
C'est un ami, un grand ami, oui.
D'accord, alors j'en ai discuté avec lui mardi de cette semaine, des fameuses 100 propositions, mais pas 99, pas 98, 100 propositions, monsieur...
Ah, ils sont chiffrerons.
Eh oui, j'ai trouvé original le chiffre et j'ai dit, ah merde, avec ça, je suis sûr qu'on va avoir beaucoup plus de votes, 100, pas 99, 100 propositions. Avez-vous pris le temps de regarder un tout petit peu le fond, ou enfin de lire ces fameuses 100 propositions?
Oui, je les ai lues, bien sûr.
Vous avez pris le temps?
C'est le catalogue de la redoute. C'est-à-dire que tout le monde y trouve quelque chose qui va lui faire plaisir. Si on vous dit, par exemple,
oui.
On va augmenter le salaire d'Ismaël Trépanier, des honoraires, vous verrez, c'est formidable. Elle ne l'a pas dit. Donc, vous devriez vous plaindre parce qu'elle le rajoutera dans le prochain discours.
Effectivement, hein, je voterai pas pour elle.
Bon, alors donc, c'est effectivement un catalogue de promesses assez générales, augmentation de ceci, augmentation de cela. Bon, il ne manquait qu'une phrase définitive, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, quoi, à peu près. Donc, c'est absolument ridicule. Et actuellement, d'ailleurs, il y a un mouvement dans l'opinion française qui est assez intéressant, car, d'une façon générale, les Français, et les campagnes présidentielles en sont l'occasion, entendent 1000 promesses, non pas 100, mais 1000, à chaque élection, et bien entendu, ces promesses ne sont pas tenues, donc ils sont un peu blasés. Mais cette fois-ci, comme la situation économique, sociale et politique est très grave, les Français semblent avoir pris conscience du fait qu'il faudrait que les hommes politiques et les femmes politiques arrêtent de se moquer d'eux. Et du coup, les gens qui font des propositions insensées sont obligés d'en rabattre, et on a vu par exemple M. Sarkozy faire des propositions de baisse des charges et d'augmentation des dépenses, ce qui évidemment laisse pantoise la simple logique, alors le lendemain, ou quelques jours plus tard, et en fait c'était hier, une commission économique de l'UMP l'a pratiquement désavoué, et a dit, ben non, vous ne pouvez pas faire tout ça, il va falloir... Vous vouliez baisser les prélèvements obligatoires de 4 points en 5 ans, ensuite il avait dit 10 ans, ben finalement si on baisse de 1 point, ce sera très bien. Donc en fait, vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire de Fernand Reynaud qui veut mes belles oranges pas chères?
Non, mais contez-moi un peu l'histoire s'il vous plaît.
Ah bah écoutez, elle est très bonne et vous allez voir qu'elle a un rapport très direct avec les propositions des candidats.
Okay.
Alors,
okay.
Donc c'est l'histoire d'un type qui arrive dans un stand, à un marché, où on vend des oranges. Et il y a un panneau sur l'étal d'oranges, qui veut mes belles oranges pas chères.
Okay.
Alors, le gars lui dit, non mais votre panneau là, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut, vous les vendez ou vous les vendez? Bon, alors qui veut? Non, qui achetez. Donc enlevez-moi ça. Okay, bon, mes belles, on voit bien qu'elles sont belles vos oranges. Et les oranges, c'est pas des pommes ni des bananes, alors enlevez-moi ça. Bon, ben, pas cher, mais on voit bien le prix, alors. Donc voilà, donc finalement le gars il dit, ben je vais
oui.
Peut-être vendre des bananes, alors
c'est
finalement...
Bon. J'aime bien
alors,
ça.
Le programme de Sarkozy, c'est ça, les gens de l'UMP lui disent, bon, qui veut mes belles baisses d'impôts pas chères? Ah oui, mais attendez, vous allez pas pouvoir les faire. Donc pour un peu, ils vont lui envoyer le message suivant, allez vendre des bananes, quoi.
Non,
et lui, ça ne le dérangera pas, il vend n'importe quoi, donc.
Excellent parallèle.
Aucun problème.
Excellent parallèle, monsieur voilà. Reichmann, que voulez-vous?
Et vous savez, c'est quand même, en général, chez les comiques, qu'on trouve les meilleures illustrations politiques, parce qu'ils ont un sens aigu du ridicule, et le ridicule en politique est quand même un élément très important. D'ailleurs, j'ai retrouvé aussi une
oui.
phrase de Pierre Dac, qui disait que un candidat est cuit quand ses mots ne sont pas crus.
C'est bon. Il y a un bon fond de vérité.
Nos deux candidats principaux, pour l'instant, ont l'air assez cuits.
Mais là, attendez un instant, là, dans les fameuses 100 propositions là, de Ségolène Royal, il n'y a pas du réchauffé et aussi des petits plats là, qu'on a mis au congélateur, là, histoire de les faire...
Oui, y a des trucs qui reviennent. Enfin, vous savez, c'est assez récurrent dans la politique française. Le problème de la politique française, c'est qu'elle ne s'est pas débarrassée du marxisme. Et donc, vous avez, de temps en temps... C'est tout le problème du Parti Socialiste. Vous n'avez pas un Parti Socialiste, comme dans la plupart des pays européens, qui soit social-démocrate, ce qui est compatible avec l'économie de marché, même si c'est difficile pour l'économie de marché de subsister dans un environnement social-démocrate. Mais enfin, ça n'est pas impossible totalement. Et en tout cas, les sociaux-démocrates veillent, dans les pays où ils sont intelligents, à ne pas casser l'économie de marché. Mais en France, vous avez un Parti Socialiste qui est encore plein de marxisme, et donc qui est un véritable parti communiste bis, moins un certain nombre d'atteintes aux libertés, mais c'est le grand problème de la politique française, car vous avez en même temps une formation politique qui s'appelle l'UMP, qui est oui. une formation de centre-droit, mais qui en réalité est une formation très socialiste.
Également. Oui, c'est ça que j'allais vous dire, vraiment de centre-droit, M. Reichmann?
Non, ils ne le sont pas, en fait.
Exact.
En fait, ils sont pratiquement socialistes. Si vous voyez, il n'y a pas une très grande différence entre eux et les socialistes. Il y a la petite culture marxiste que les socialistes ont et que le centre-droit, qui est en fait du centre-gauche, n'a pas. Mais ce qui imprègne toute la société française, c'est ça. Et en fait, le moteur principal des politiciens français, c'est de faire plaisir aux envieux.
Oui.
En France, ce sont les envieux qui tiennent le haut du pavé.
Ah, d'accord. Et, parce que j'ai vraiment l'impression, M. Reichmann, aussi, qu'on s'inspire du régime de Fidel Castro en France. Des gens très, très riches et oui. on essaie d'appauvrir les gens au maximum.
C'est exactement cela. Alors, la seule chose que nous n'avons pas, c'est le plaisir d'entendre pendant 4 ou 5 heures d'horloge
oui.
un dirigeant français. Je veux dire que dans le cas où M. Sarkozy, par exemple, s'amuserait à parler pendant 4 ou 5 heures, je suis sûr qu'il y aurait à ce moment-là un énorme soupir dans la société française et tout le monde s'endormirait. mais c'est quand même une différence. Cela étant dit, il y a quand même dans les comparaisons qu'on peut faire, une tendance, en effet, à être totalitaire au plan médiatique. Monsieur Sarkozy est l'ami de tous les grands propriétaires de journaux français, à l'exception de quelques journaux de gauche, et encore, d'autant plus que le journal Libération est maintenant entre les mains de Monsieur de Rothschild, donc ce n'est pas à proprement parler un propriétaire de gauche. Donc nous avons une situation où Monsieur Sarkozy peut d'un coup de téléphone demander à un éditeur de ne pas publier un livre, c'est ce qu'il a fait dans le cas d'un livre consacré à son épouse.
Ah.
Il peut faire virer un rédacteur en chef qui a publié les photos de son épouse avec...
Il a eu la
peau et la tête de M. Genestard qui dirigeait Paris Match.
Mais
alors, si vous voulez, le sarkozisme, c'est quand même quelque chose d'inquiétant, parce que si vraiment la France, qui déjà est totalement communisée par les institutions telles que la sécurité sociale et l'ensemble du système social, est en plus dirigée d'une main de fer par quelqu'un qui est sans scrupules médiatiques et qui veut imposer sa vision, je pense que nous allons être dans une situation particulièrement désolante.
Monsieur Sarkozy, je ne croyais pas qu'il avait autant de pouvoir entre ses mains, sans même être le président de la France, et c'était incroyable.
Oui, il est... Non, vous avez raison, c'est un sujet d'étonnement, parce que...
C'est très étonnant, oui.
Parce que dans un pays moderne et démocratique, il y a quand même une concurrence médiatique. Mais là, la concentration des pouvoirs en France est telle, et des médias, que M. Sarkozy est extrêmement ami, par exemple, avec M. Bouygues. M. Bouygues est le propriétaire de TF1, et également de Bouygues Téléphone, et de surtout de la société Bouygues, qui est à l'origine une société de construction. De
travaux publics. C'est bien ça.
Il est très ami avec Arnaud Lagardère, qui est le fils de son père et qui a hérité de son empire, et qui est le propriétaire d'énormément de médias écrits, et d'au moins un média audiovisuel, c'est-à-dire Europe 1. Il est très ami avec le directeur du Figaro, Monsieur Bétou. Il paraît que leur fils joue ensemble au football. Donc, vous avez des médias qui s'alignent complètement sur Sarkozy, et la liberté de l'information, et surtout la liberté du débat, n'existe plus. Les gens sont écœurés vraiment de l'attitude de... Alors, je dirais...
Attention, là, M. Reichmann, là, le mot écœuré, vous allez être censuré sur les ondes de Rockkick.com.
Ah bon? On n'a pas le droit de le dire?
Non, bien au contraire. Vous avez...
Oui, non, ça, je crois savoir que ce n'est pas ce genre de mot qui vous fait peur.
Non, absolument pas.
Réellement, c'est l'écœurement, et ça se traduit alors dans les chiffres des sondages qui disent, là, une fois encore, il ne s'agit pas de sondages d'intention de vote, mais de sondages d'opinion qui disent effectivement que les trois quarts pratiquement des Français ne veulent plus de ce duopole socialo-socialiste, c'est-à-dire
oui.
Royal et Sarkozy. Et donc, c'est la chance que peut avoir Bayrou, que peut avoir également Le Pen, parce que lui aussi est contre le système. Mais là, on n'a pas d'indication vraiment très fiable sur la hauteur à laquelle il se situe actuellement, car lui dit que oui. si les sondages lui accordent 13% actuellement en moyenne, c'est très prometteur pour lui, parce que lorsqu'en 2002, il est arrivé au deuxième tour, avec 17% des voix, eh bien, les sondages à la même période lui en donnaient 8,5. Alors il dit, je n'ai qu'à, si on fait le rapport, je devrais être normalement à 26. Bon, je ne sais pas s'il est à 26, je ne sais pas d'ailleurs si lui-même pense qu'il est à 26. Enfin, en tout cas, il est vraisemblable qu'il est au-dessus de 13, et même assez largement.
Mais, donc, monsieur Reichmann, j'ai aussi autre chose, j'ai Lagardère a aussi une filiale en armement.
Ah bah oui, Lagardère, c'est EADS, et c'est Matras, etc. Et donc, alors il s'est un peu libéré d'une partie de ses actions EADS pour se reconcentrer sur les médias, mais il en a encore.
C'est sûr.
D'ailleurs, effectivement, et vous avez le propriétaire du Figaro, c'est Monsieur Dassault. Monsieur Dassault, c'est un marchand d'armes et d'avions.
Ah, c'est son argent de poche, probablement, oui.
Non, c'est une danseuse, comme on dit.
Hein. Ah, ok.
Enfin, c'est vrai que le père de Monsieur Dassault, c'est Serge Dassault, son père, qui était le fondateur de l'entreprise d'aviation, de construction d'avions, qui a fait sa fortune et la fortune de sa famille, avait créé un journal qui s'appelait Jour de France. Et Jour de France était le magazine de la vie heureuse. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si Serge Dassault veut faire le même type de journal que son père Marcel, mais ce qui est sûr, c'est que les journalistes du Figaro, quand ils arrivent au travail, ont une combinaison blanche et un pot de peinture rose. Voilà, parce qu'il faut peindre les pages du journal un peu en rose. Enfin, je suppose, j'ai quelques amis au Figaro,
et
j'ai toujours remarqué qu'ils étaient un peu tachés comme ça, vous voyez.
On me dit que Dassault égale fabricant d'avions de chasse Mirage.
Voilà, c'est ça. Et maintenant le Rafale. Alors le problème, c'est que le Rafale est un avion qui a été commandé par l'armée de l'air française, mais qui n'a pas été vendu jusqu'à présent au moindre pays étranger. Donc c'est un vrai problème. Et bon, Dassault ne peut pas évidemment se permettre pour son entreprise d'être mal avec le gouvernement français, parce que s'il perd les commandes de l'État français, eh bien il perd tout. Sauf évidemment une filiale d'aviation qui marche très bien également. Vous savez, ils font des avions d'affaires, les Falcons, qui se vendent très bien en ce moment, parce que comme il y a une situation économique mondiale florissante, les voyages d'affaires se multiplient et les grandes sociétés acquièrent des avions d'affaires, et donc ça marche très très bien. Enfin, il n'empêche que l'essentiel de son pouvoir économique repose sur le Rafale et sur les avions de guerre, et donc il est obligé, évidemment, d'être dans les meilleurs termes avec le gouvernement français. Mais on se demande dans ces conditions pourquoi il achète un journal, parce que si c'est pour se donner une arme supplémentaire,
et voilà,
vraiment nécessaire,
une arme de manipulation, monsieur Reichmann,
voilà, ça, je crois que c'est effectivement, seulement le problème, c'est que les armes de manipulation ne se manipulent pas de la même manière que les avions de chasse. C'est-à-dire qu'un avion de chasse, vous y mettez un pilote qui est expérimenté, qui connaît son métier, et un journal, ça n'est pas du tout la même chose. Un journal, il faut non seulement le faire, c'est-à-dire créer créer des articles et les mettre sur du papier, mais il faut également le faire de telle manière que l'on soit cru. Et à partir du moment où vous avez un journal qui est orienté, qui est destiné à une certaine forme de manipulation, quelle qu'elle soit, très vite le lecteur le ressent, et l'influence du média décroît d'autant. Donc c'est une arme très difficile à manier, et moi je pense que M. Dassault ne connaît strictement rien à la presse, et donc
vous allez être d'accord avec moi, M. Reichmann, qu'il faut toujours savoir mais qui se cache en arrière de chaque média, afin de vraiment savoir mais qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner le matin, qu'est-ce qu'il mange dans son repas, qu'est-ce qu'il met exactement dans son dîner. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment se faire une réelle idée de l'individu, par exemple, du personnage que vous me parlez en ce moment.
Oui, vous avez raison. Il y a aussi une question qu'il faut se poser quand vous lisez un journal, c'est de savoir qui signe, par exemple, les tribunes. Plus exactement, quel est le métier de ceux qui signent les tribunes. Eh bien, vous apercevrez que dans la presse française, 70, 80, peut-être même 90% des tribunes sont signées par des gens qui vivent de l'État. c'est-à-dire ce sont des universitaires, des chercheurs, etc. Et c'est eux qui tiennent littéralement le haut du pavé médiatique, si bien que l'opinion des gens de l'entreprise ne s'exprime presque jamais, ou alors elle s'exprime par le biais de leur représentation officielle, comme par exemple de Madame Parizeau, qui est la présidente du MEDEF, c'est-à-dire le représentant des entreprises, qui ne les représente d'ailleurs pas du tout, puisque le MEDEF est une structure de caractère parfaitement administratif, dirigée par des énarques également, comme l'État français. Et donc, et quant à Madame Parizeau, elle s'est fait une grande spécialité, c'est la proclamation de grandes bêtises. Donc, elle est vraiment d'une nullité qui est absolument consternante. Je crois qu'elle avait employé un terme récemment à propos d'une université d'été. C'était quelque chose comme ensorceler le réel ou un truc dans ce genre-là. C'est vraiment une énorme bêtise. Et ce qui me navre dans cette affaire, c'est moi je suis très partisan de l'entrée des femmes en politique. Je trouve que c'est normal, et puis je pense qu'elles ont des choses à dire. Mais alors, les derniers épisodes...
Attendez, là, Monsieur Reichmann, c'est surtout pour leurs beaux yeux là, que vous les voulez en politique. Allez, dites-le.
Bon, bah écoutez, puisque vous me poussez dans mes retranchements, j'avoue, là. vous êtes un tortionnaire, Monsieur Ismaël, vrai tortionnaire. Vous poussez à l'aveu même des gens ayant un extrême courage.
tout à fait, c'est mon
droit. Et donc, ce qui est navrant, c'est que les deux irruptions récentes en politique, car le MEDEF c'est de la politique, c'est-à-dire Madame Parizeau et Madame Royal, sont vraiment nulles, il n'y a pas d'autre mot. Alors, elles ne sont pas nulles parce qu'elles sont des femmes, elles sont nulles. Et il se trouve que, ça ne va pas accroître le prestige des femmes, et ça leur rend même un mauvais service, et donc c'est un coup raté.
Monsieur Reichmann, savez-vous quoi? Aujourd'hui, on a découvert qu'il y a aussi des journalistes. Vous me parlez de gens qui se fait vivre par l'État, mais il y a aussi des journalistes qui se cachent derrière des pseudos. Des pseudonymes. Oui, des pseudonoms. Et travaillent dans plusieurs boîtes différentes. Ouais, ça c'est spécial aussi.
Oui, de toute façon, le pseudo, vous le savez, c'est un phénomène très classique dans la presse, mais se dissimuler sous les pseudos dans certains cas, c'est quand même tromper un petit peu le lecteur, parce que si vous êtes quelqu'un qui s'exprime d'une certaine manière dans un média et d'une autre sous un pseudo dans un autre média, vous avez une action qui est quand même très critiquable. Mais je pense que l'ensemble de ce système médiatique devrait être marqué par la loyauté, voyez-vous, c'est le mot majeur, la loyauté. Or, il n'y a aucune loyauté dans le système médiatique français. Au contraire, il y a des articles de copinage, il y a des articles qui font la louange d'un spectacle parce que c'est un copain qui l'a monté. Enfin bref.
Je vous dirais que nous, on a appris aujourd'hui dans le Libération.fr, il y a un article qui fustige, dans le fond, le village d'Hérouville, le fameux code de Hérouville.
Ah oui.
Bon. Alors là, on s'est mis à chercher l'individu en question, ce prénom et nom, Emmanuel Langlois. Et là, je me dis, mais bon sang, ça fait québécois un peu comme nom de famille. Langlois, j'en ai pas souvent entendu du côté de l'Europe, quoi. Il y en a, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? J'en doute fort. Je suis peut-être dans l'erreur aussi, Monsieur Reichmann, là, vous pouvez me le dire.
Je ne sais pas, parce que je n'ai pas lu cet article, je ne connais pas le nom de ce journaliste que vous venez de prononcer.
Oui.
Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est que l'affaire d'Hérouville est une affaire évidemment très importante. Elle a été reprise par la presse française. Le Figaro, pour une fois, rendons-lui non pas hommage, parce que c'est bien la moindre des choses, on a fait un article assez consistant, donc il semble dire les choses assez bien également. Et c'est évidemment une affaire qui est très intéressante, parce qu'elle montre que le peuple, lui, n'est pas du tout dupe de ces grands messages qui sont censés recommander une immigration massive et les bienfaits de cette immigration massive.
Oui.
Alors qu'en France, nous mesurons au contraire les méfaits de l'immigration massive. C'est un phénomène purement mathématique. C'est-à-dire que quand vous avez un certain pourcentage d'allogènes dans une population, les problèmes naissent. Et on sait que au-delà de 10% d'allogènes dans une population, vous avez le début des problèmes, enfin le début sérieux des problèmes, et à 20%, ils deviennent maîtres de la situation. Donc nous sommes en France dans une situation où vraisemblablement, car les chiffres sont évidemment cachés, ils ne sont donnés que sous le manteau, donc on est obligé de les reconstituer, on s'est livré nous à un travail assez sérieux avec l'aide de personnes très compétentes, et il semble bien qu'on soit plus très loin des 20% d'allogènes dans la population française. Et quand vous constatez comment les choses se passent, c'est-à-dire la violence partout, des phénomènes d'intolérance et des phénomènes de refus les uns des autres, il y a un climat absolument détestable en France en ce moment, vous vous apercevez qu'une fois de plus, cette règle du pourcentage ou du seuil de tolérance, comme le disait d'ailleurs M. Mitterrand lui-même, est largement impliquée, et donc nous sommes dans un cas de figure extrêmement préoccupant. Et je doute que le prochain président de la République, ou la prochaine, si tant est que ce soit une femme, ait l'assise nécessaire pour régler le problème. Parce que, comme je vous l'ai dit dans nos précédents entretiens,
oui,
quand vous arrivez au pouvoir, vous devez y arriver, si vous voulez faire quelque chose, en ayant d'une certaine manière déjà convaincu vos compatriotes. Il faut qu'ils sachent, premièrement, ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire. Et s'ils vous élisent, c'est qu'ils vous font assez confiance, au moins, pour entreprendre ces changements. Or, aucun des candidats, jusqu'à présent, à part Jean-Marie Le Pen, ne fustige les excès d'immigration. Alors, il s'est quand même passé un phénomène très curieux sur le plateau de TF1 l'autre jour, où Le Pen était invité.
Okay.
Il y avait un panel, comme on dit, de personnes apparemment représentative, d'après les organisateurs de l'émission. Eh bien, figurez-vous qu'on ne lui a posé aucune question vraiment agressive, alors que d'habitude, il est agressé en permanence, et qu'à la fin, tenez-vous bien, il a été applaudi par la salle. C'est un phénomène tout à fait exceptionnel. Et donc, ça prouve que les problèmes d'immigration, car il en a beaucoup parlé pendant cette émission, sont au cœur, dans les esprits français, de la campagne électorale, même si le sujet n'est pratiquement pas abordé chez les politiques qui font campagne.
Monsieur Reichmann, cette semaine, on a eu un candidat du Parti libéral qui a lancé ses commentaires à l'endroit du parti de l'ADQ, le parti adéquiste, à l'endroit du chef Mario Dumont. Il s'appelle Pierre Arcan, ce candidat libéral. Il a dit que Mario Dumont, parce que Mario Dumont a décidé de prendre la pôle, si vous voulez, concernant ses accommodements raisonnables, il a dit non, c'est assez, à un moment donné, il faut mettre nos pantalons et dire ce qu'on pense réellement. Et nous ne tolérons pas les intolérables. Et ce candidat, Pierre Arcan, a dit que Mario Dumont était de la même trempe que Jean-Marie Le Pen. Et Mario Dumont a demandé des excuses, ce que Pierre Arcan, candidat libéral, n'a pas fait. Que pensez-vous de ce type de commentaires-là dans une campagne électorale?
Je ne connais pas assez bien les deux personnages en question pour vous donner une opinion éclairée, mais je sais, c'est que, évidemment, la comparaison avec Jean-Marie Le Pen était dans l'esprit de celui qui la faisait insultante. Et il est normal que la personne se soit sentie insultée, parce que non pas que le nom de Jean-Marie Le Pen soit un sujet d'insulte, mais parce que ça voulait dire que tout ce qu'il y a derrière la diabolisation du Front National et de Jean-Marie Le Pen ressort à cette occasion. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de chercher longtemps pour savoir que quand on vous traite de lepéniste, on vous traite pratiquement de fasciste, pourquoi de raciste et pourquoi pas de nazi. Donc c'est pour ça que le candidat qui s'est vu comparé à Le Pen a dû se sentir blessé, et non pas certainement par rapport à la réalité que représente M. Le Pen. Mais voyez-vous, ce sont des procédés que je trouve désastreux, parce que le problème, en politique, le fait de s'insulter n'avance strictement à rien. Les gens n'aiment pas ça et ça ne les éclaire absolument pas. On doit pouvoir aborder n'importe quel sujet de manière calme, et accepter qu'un contradicteur vous apporte précisément la contradiction. Or, ces problèmes d'immigration sont des problèmes qu'il faut étudier sérieusement, car ceux qui en souffrent tous les jours, c'est évidemment ceux qui vivent dans un milieu où les immigrés sont si nombreux qu'ils font régner un climat qui n'est pas celui auquel sont habitués les natifs du pays. Et les immigrés eux-mêmes sont mis dans une situation pénible également, puisqu'ils sont l'objet d'un phénomène de rejet. Et donc, tout ceci engage la responsabilité des politiciens, parce que c'est à eux de dire, d'abord, est-ce qu'il est souhaitable que les immigrés entrent très nombreux, et jusqu'à quelle proportion ? Alors, je disais récemment dans un discours qu'il y a en Occident, il y a à peu près, dans l'Occident développé, 800 800 millions de personnes et il y a 7 milliards d'hommes sur Terre.
Oui.
Donc la France, avec ses 62 millions d'habitants, 60 millions en métropole, veut-elle accueillir combien d'immigrés ? 1 million, 100 millions, 1 milliard, 6 milliards ? On peut aller jusqu'à 6 milliards et des poussières. Donc c'est ça qu'il faut demander aux hommes politiques. Ça n'est pas de dire est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ceci ou cela, c'est de leur dire voilà, une immigration qui est, en France par exemple, attirée par des avantages sociaux considérables, puisqu'on peut pratiquement vivre en France sans travailler, en étant soigné, etc. Donc c'est évidemment très, très attractif. Eh bien, tous les déshérités de la planète ne songent qu'à une chose, c'est venir en France. Alors, il faut qu'on nous dise, un, si c'est vraiment le sort, et je pense que les autorités canadiennes sont dans le même cas, si c'est le sort dévolu à la France d'accueillir toute la misère du monde, comme disait M. Rocard, et dans le cas où on dit qu'on peut accueillir des immigrés, il faut dire jusqu'à combien, et pendant combien de temps. Enfin bref, toute une série de questions qui méritent un débat. Alors j'ai essayé de le lancer en France, et les journalistes m'ont toujours dit, on verra plus tard, on verra plus tard. Ça les intéresse pas tellement. En réalité, c'est un débat qui est capital, mais qui est un peu dangereux pour les journalistes, parce qu'il suscite les passions. Mais voilà, tout le problème est ainsi posé. Est-ce qu'il faut rejeter tout débat au motif que ça peut déranger quelques-uns, ou bien est-ce qu'il faut, au contraire,
exact,
avoir un débat? Et vous savez, il y a une grande caractéristique, c'est que le débat, quand on le refuse, on le fait sortir par la porte, mais il rentre par la fenêtre.
Ah ah, oui, ça, je suis d'accord à 100% avec vous, Monsieur Reichmann. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, la manifestation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, comment ça s'est passé, s'il vous plaît, Monsieur Reichmann?
Ah bien, écoutez, elle s'est très bien passée. Nous avons manifesté, comme je vous l'avais dit, non loin du siège de la société civile immobilière de Monsieur Hollande et de Madame Royal.
Royal, oui.
Et nous avons effectivement stigmatiser l'enrichissement des politiciens, car actuellement les politiciens sont les seuls à pouvoir s'enrichir en France, avec ceux qui, les derniers hommes d'affaires qui restent et qui, s'ils s'enrichissent honnêtement, parce que eux, c'est le fruit de leur activité. Et donc nous avons stigmatisé tout cela, et nous avons eu effectivement une très large approbation du public. Et alors à la fin, nous avons fait une quête, et cette quête, comme je l'avais annoncé, honnêtement, son produit a été détourné au profit de la Révolution bleue, alors qu'elle était en principe destinée à améliorer le sort des pauvres politiciens. Voilà, donc il y a eu un éclat de rire général, et tout s'est très bien passé. Vous pouvez d'ailleurs en voir les photos sur les sites de la Révolution bleue, tout s'est très très bien passé. Nous allons bien sûr continuer nos manifestations, même si actuellement, le climat politique est un peu plus à la campagne électorale qu'aux manifestations, mais dès qu'une occasion significative se présente, nous le faisons, et nous cherchons toujours des endroits signifiants. Par exemple, les gens se demandaient, je ne les avais pas prévenus, je leur avais dit où était le lieu de rendez-vous, mais je ne leur avais pas dit pourquoi c'était ce lieu. Alors, quand ils ont découvert pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire qu'ils étaient venus célébrer les pauvres politiciens et une société civile immobilière qui abrite plusieurs millions d'euros de valeur, là, je pense que leur indignation n'a fait que croître.
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Reichmann, j'ai l'impression que François Hollande et Ségolène Royal, s'ils pouvaient prendre, par exemple, faire un copier-coller, oui, voilà, un copier-coller, voilà. Du régime de Fidel Castro,
il
le ferait demain matin, allez.
En tout cas, vous savez, François Hollande est peut-être un peu plus rond à tous les sens du terme que sa compagne.
Oui, et elle a physiquement aussi.
Elle a un comportement dictatorial. Alors, évidemment, le seul problème en ce qui concerne Fidel Castro, c'est qu'il faudrait qu'elle se laisse pousser la moustache et la barbe. ce qui, pour une femme, est quand même un peu gênant. Mais vous savez, le pouvoir est tellement attractif que si vous lui mettiez le marché en main, peut-être qu'elle vous dirait, écoutez, pourquoi pas la barbe.
Il y a de fortes chances. Je me demandais, M. Rochman, est-ce que vous avez une bannière de votre site, la Révolution Bleue?
Une bannière?
Oui. Parce que j'aimerais vous proposer ceci, un échange de notre logo sur votre site, et même chose sur notre site, histoire.
Écoutez, nous en avons plusieurs, et vous pouvez, si vous allez sur le blog de la Révolution Bleue,
oui,
vous verrez, c'est tenu par un jeune garçon qui a lancé ce blog, et ça marche très très bien, qui s'appelle Gilles Albert Lee, c'est donc le blog de la Révolution Bleue, c'est facile à trouver. Je ne sais plus exactement quelle est l'adresse internet, mais avec un moteur de recherche, vous le trouverez tout de suite.
Ben oui,
Eh bien, vous verrez les différentes bannières, et puis effectivement, envoyez-nous. Nous annonçons nos émissions sur Rockick, sur nos sites.
Hein. Oui, effectivement, j'apprécie.
Sur ce blog que Rockick est bien répertorié également. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on échangera nos identités visibles.
Voilà, et surtout d'être plus fort encore. C'est en travaillant en équipe que nous deviendrons encore plus forts.
Comme disait... Vous parlez d'or, cher ami.
et comme disait un de mes maîtres ici en communication, André Arthur, en gang, Monsieur Reichmann, on sait tout.
Oui.
Alors, en gang, on sait tout. En équipe, on sait tout.
Oui. En gagne, vous voulez dire?
Oui, vous savez, une gang, une équipe.
Ah, en gagne.
Oui, en gang, on sait tout.
Oui. Ben oui, on sait tout. Oui, c'est vrai. L'esprit d'équipe est capital. Il ne faut surtout pas céder quand on veut faire une action publique. Et tous ceux qui parlent en public font de l'action publique.
Voilà.
Il ne faut pas faire d'individualisme. C'est extrêmement dangereux. Il ne faut pas cultiver son ego, il ne faut pas surestimer son moi, parce que pour les autres, il n'a qu'une importance très modeste. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de pousser en avant le plus possible des gens qui ont des choses à dire. C'est notre rôle, nous, en tant que comme de médias. Et puis, essayer effectivement de s'entraider de manière à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une syndication, c'est-à-dire un groupement de forces, et on en a bien besoin parce que les forces de la liberté sont quand même maltraitées dans le monde.
Tout à fait.
Celles que nous essayons d'exprimer ont besoin d'être unies.
Monsieur Reichmann, toujours un plaisir. On vous lâche un coup de fil la semaine prochaine, vendredi prochain.
Est-ce que ça vous ennuierait qu'on avance d'une heure notre passage la semaine prochaine? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons un café politique à 17h. Et donc, est-ce que 16 heures d'Europe, ce serait possible?
Ben, ça sera possible, certainement, M. Reichmann.
D'accord, parce que, vous savez, assez régulièrement, nous faisons ce qu'on appelle un café politique, c'est-à-dire que nous réunissons tous ceux qui sont favorables à la Révolution bleue, et chacun peut s'exprimer pendant 2 heures. Chacun d'entre nous fait un petit speech pour expliquer un peu les choses, on commente l'actualité, et donc vendredi prochain à 17h, nous avons ce café politique où je dirai bien entendu tout le bien que je pense de votre radio, et donc si vous voulez bien, notre prochain rendez-vous, ce sera vendredi prochain à 16h précise, si vous voulez bien.
Merci beaucoup, M. Reichmann, on fera ça comme ça.
Alors, à bientôt.
Bonne fin de soirée, M. Reichmann, au revoir.
Au revoir.
Alors, vous avez entendu M. Reichmann, 16h la semaine prochaine, que l'on aura l'occasion de discuter avec lui. Nous, minute là, il est 11h54 minutes, oui, 17h54 minutes. On va parler avec Miss Diamond pour les arts et spectacles tout de suite après ceci. Restez là, gang de malades! Et c'est pas fini! Non, on bat des derrières jusqu'à 18h. On dépasse toujours un petit peu, là. Oui, c'est le fun de dépasser, c'est de défoncer. Parce que...